RCF.
Avec ce que vous avez raconté, Georges Forestier, concernant l'éventualité que Molière ait épousé sa propre fille en épousant Armande Béjart, les ragots, on en déduit donc qu'il n'a pas eu que des amis. Il a eu des détracteurs. Beaucoup de choses très négatives ont été également dites à son sujet.
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est la première star moderne. Jusqu'alors, les gazettes avaient les yeux fixés sur les grands seigneurs de la cour. Et c'est la première fois que sur un roturier devenu une célébrité, les gazettes ont les yeux fixés sur lui. Donc, il va de succès en succès. Et puis, il va devenir un auteur qui fait la satire des comportements des contemporains.
Et beaucoup se sentent visés.
Exactement. Alors, même s'il n'arrête pas de dire qu'il vise personne en particulier, comme il est sceptique, il fait partie des pyrrhoniens, ce que les adversaires des sceptiques appellent les libertins, il est adulé par un public qui est d'abord le public de la cour et des salons, dans lesquels on pratique une religion qui est celle du plaisir. Louis XIV, ce n'est pas le Louis XIV des années 80 qui va se convertir, comme on disait au XVIIe siècle, épouser Madame de Maintenon, etc., etc. Louis XIV, c'est le jeune Louis XIV qui a une maîtresse par jour, outre ses grandes maîtresses principales, la Vallière et la Montespan. Et dans les salons parisiens, on débat de beaucoup de choses, de la liberté des femmes, du rôle de la religion. Et il se trouve que depuis le début du siècle, depuis la fin du XVIe siècle, le début du siècle, pour faire pièce au puritanisme protestant, la religion catholique a développé ce qu'on appelle la dévotion. François de Sales a écrit un ouvrage capital qui s'appelle « Introduction à la vie dévote » au début du siècle. Et il y a beaucoup de dévots qui pratiquent une religion qu'on appelle une religion zélée, c'est-à-dire qui font du prosélytisme, qui reprochent leur comportement à certains, qui dénoncent des maris trop complaisants envers leurs femmes. Enfin, il y a eu des scandales. Bon. Et évidemment, les dévots dénoncent le comportement de Louis XIV. Et dans les salons, on discute quelle est la meilleure religion, une religion naturelle ou une religion catholique, mais dépourvue de tout rigorisme dévot, etc. C'est des sujets de discussion. Comme dans ces milieux-là, ces dames qui tiennent les salons promeuvent l'éducation des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, et du coup, Molière va commencer à faire la satire de ça. Il se sert des modèles de comédie à l'espagnole qui se moquent des maris jaloux, etc. Mais dans l'école des maris et surtout dans l'école des femmes, il fait la satire de ceux qui considèrent que les femmes sont les inférieures de l'homme et qu'elles doivent leur obéir et qu'une femme instruite et intelligente va nécessairement tromper son mari.
Donc il se met à dos les dévots.
Voilà, il se met à dos les dévots. La bourgeoisie traditionnelle, qui évidemment...
Qui en prend pour son grade aussi.
Oui, et puis qui est attachée à une conception dominante de l'Église catholique, des rapports entre les hommes et les femmes. Donc, mais il est évidemment porté par les salons, par la cour, etc., qui est son principal public. Parce que ceux qui ont accès, c'est la bourgeoisie marchande qui vend dans les places les moins chères au parterre et qui cherche à imiter leurs principaux clients qui sont la bourgeoisie parlementaire anoblie ou bien l'aristocratie. Et c'est ainsi qu'après l'école des femmes, tout naturellement, appuyé par Louis XIV, qui en a marre que les dévots veuillent lui indiquer la voie à suivre, eh bien, écrit une pièce dans laquelle il va faire la satire d'un des fondements de la vie dévote, qui est le rapport entre un homme pieux et le directeur de conscience qui doit le guider.
Et ça donne ?
Tartuffe.
Votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence.
Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Qu'il faut que je consente à vous tout accorder. Et qu'à moi de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela.
La suite de l'histoire.
La première version du Tartuffe, c'est-à-dire le Tartuffe en trois actes que Molière fait représenter, et que le roi, au lendemain de la représentation, qu'il a applaudi à Versailles, chapitré pendant son ancien précepteur, qui est l'archevêque de Paris, dit à Molière qu'il faut qu'il ne peut pas l'autoriser à le représenter en public, devant son public parisien.
Il faudra donc attendre...
5 ans. Et du coup, entre-temps, Molière va dire « Non, je n'ai pas fait la satire de la dévotion et des dévots, j'ai fait la satire des hypocrites et des faux dévots. Et c'est ainsi qu'il va transformer sa pièce et que le Tartuffe originel, qui est un véritable directeur de conscience, qu'il a présenté comme les moines du Moyen-Âge, vous savez, qui prie Dieu toute la journée, mais qui aime la bonne chair, qui aime la chair, alors que François de Sales a bien dit, faites attention, parce que comme votre directeur de conscience doit être la voix de Dieu, il faut qu'il soit parfait. S'il se laisse tenter par les passions que des autres hommes, la vaine de gloire, la tentation de la chair, etc., c'est foutu. Et c'est de ça qu'a fait la satire Molière. Et du coup, il transforme son personnage en un hypocrite professionnel, un aventurier dont on découvre il rajoute un cinquième acte, il rajoute un deuxième acte, et c'est plus exactement la même que celle que Molière.
Que la pièce initiale.
Voilà. Et du coup, bien sûr, il s'attire les foudres des dévots de l'Église, dont certains courants dans la lignée de Richelieu étaient très favorables au théâtre, pourvu que le théâtre soit épuré et instruise, entre guillemets, de façon morale, le public. Et puis, évidemment, en face de ça, il y a tous ceux qui disent que le théâtre empoisonne les âmes, parce que qu'est-ce qu'il devrait enseigner ? Uniquement l'amour de Dieu. Il se trouve que le théâtre, même celui du plus parfait auteur et plus honnête auteur de théâtre qu'est Corneille, qu'est-ce qu'il fait aimer ? Il fait aimer l'amour des hommes. On est ému par les sentiments amoureux des personnages.
Alors, il y a d'autres scandales ? Je pense à Don Juan, notamment.
Alors, mais Don Juan, ça n'a pas été un scandale, en fait. Il a été attaqué par les dévots. Il y a un texte qui paraît qui s'appelle « Observation sur une comédie de Molière intitulée « Le festin de Pierre ». La pièce disparaît de l'affiche après Pâques 1665. Elle a tenu un mois et demi. Elle n'a pas été interdite comme Tartuffe, mais on lui a conseillé vivement de l'étouffer. En gros, en fait, pas du tout. Il se trouve que comme Molière, pour faire face à l'interdiction provisoire de Tartuffe, avait dû, dans l'urgence, concevoir une nouvelle pièce, il a profité du fait que ceux qui partageaient le même théâtre que lui, les Italiens, ils jouaient en alternance un jour sur deux, étaient repartis en Italie pour reprendre leur sujet, une de leurs pièces à succès, qui était le Festin de Pierre. Et il en fait son Festin de Pierre, et il en fait une pièce à grand spectacle. Et à ce moment-là, le Palais Royal dans lequel il jouait n'était pas très bien aménagé, il y avait des poutres qui étaient encore pourries, etc. Donc il ne pouvait pas avoir de grosses machines, et donc tous les décors devaient coulisser et devaient rester d'un jour sur l'autre sur la scène. Et avec le retour des comédiens italiens à Pâques 1665, il ne pouvait plus continuer à jouer. C'était impraticable de garder les grands décors. Et du coup, on retire la pièce de l'affiche. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à forger la réputation d'une pièce sulfureuse, dangereuse, etc., etc. C'est comme ça qu'elle a été réécrite 15 ans plus tard par Thomas Corneille et édulcorée.
Georges Forestier, les pièces de théâtre de Molière contribuent à une évolution des mentalités et de la société ? Ou il ne faut pas aller jusque-là ?
Je crois qu'il ne faut pas aller jusque-là. En revanche, il est le témoin de débats.
Il y a un effet miroir.
Voilà, il y a un effet miroir, c'est-à-dire que comme aujourd'hui, les humoristes de notre temps, ce n'est pas eux qui vont nous corriger sur certains points, etc. Il se trouve que pour faire passer sa pièce, Tartuffe, Molière a inventé quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant, qui est le but de la comédie est de corriger les vices des hommes. Et cette idée de comédie moralisatrice et corrective, qu'il a emprunté à un texte néo-latin du XVIe siècle, en fait, il le fait pour se défendre. Et du coup, mais il n'a jamais écrit ça. Il était en train, au moment d'écrire une pièce qui s'appelle Le Misanthrope, qui ne vise pas à corriger les hommes, puisque c'est une satire des comportements dans les salons, etc. Il écrit l'avare pour prouver qu'en fait, bon, puisque l'avarice, depuis la Bible, c'est le pire des mots, c'est celui qui est la source de toutes les autres passions. Mais c'est tout. Et donc, en fait, il s'est donné l'image d'un correcteur des hommes pour faire passer Tartuffe. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va développer de plus en plus ? Le bourgeois gentilhomme, le malade imaginaire, on voit bien qu'en fait, il est en train d'inventer une nouvelle forme de grand spectacle qui mêle la musique, la danse et la comédie. Et c'est ça qui l'intéresse, créer un spectacle total qui plaît à la cour, qui plaît à la ville. Il ne va pas plus loin parce qu'il meurt au soir de la quatrième représentation du Malade imaginaire le 17 février 1673.
On va y revenir, mais il y a donc des collaborations aussi avec des musiciens, notamment.
Avec Lully, c'était les deux Baptistes, comme on les appelait, avec Jean-Baptiste Lully. Là encore, c'est un coup de hasard. Dans chaque entracte au XVIIe siècle, puisqu'il y avait un entracte à la fin de chaque acte, un acte qui durait une demi-heure, un entracte. Et dans l'entracte, tous les théâtres avaient 4, 5 ou 6 violons qui jouaient des airs à la mode, que le public n'écoutait quasiment pas. Ils parlaient entre eux, etc., pour commenter ce qu'ils venaient de voir. À la cour, ces entractes musiqués, ça devenait de la véritable... Vraiment, là, il y avait la symphonie qui jouait de façon plus longue, il y avait de véritables spectacles alternés, comme ça, dans les entractes. Et puis, il y avait un genre qui était le genre royal par excellence, qui était le ballet de cour. C'est un genre théâtral dans lequel le roi et les meilleurs danseurs de sa cour dansaient. Et lorsque le fameux Fouquet, pour l'inauguration de son château de Vaux-le-Vicomte en 1661, a invité le roi, ils ont eu l'idée de faire... quelque chose qui était la comédie et les entractes. On a mis les entrées de ballet dans les entractes. Et ça a créé Les Fâcheux. Et c'est à partir de là que la collaboration va se développer avec Lully.
Pour conclure, Molière est-il mort sur scène ou pas ?
Ah, il n'est pas mort sur scène. Il est mort quelques heures après, chez lui, dans la maison qu'il occupait depuis quelques années, rue de Richelieu. Et voilà, il est mort chez lui, au soir de la quatrième représentation. Mais là, vous voyez, comme vous m'avez dit... que peut-on dire de neuf sur Molière aujourd'hui ? Eh bien, on s'aperçoit que même la mort de Molière est devenue objet de légende. Parce qu'il est bien plus beau pour un comédien de mourir sur scène, dans la mesure où il meurt le même jour en sortant, que de mourir chez lui. Il a été comédien jusqu'au dernier souffle, c'est ça qu'on peut dire. Et donc, c'est comme ça que les légendes naissent.
Molière est-il un auteur moderne encore aujourd'hui ?
C'est un auteur intemporel. C'est pour ça qu'alors même qu'il avait inventé un type de théâtre enraciné dans son temps, tout de suite il devient un classique. Et qui dit classique dit auteur qui peut être représenté à toute période, parce qu'à chaque période il a quelque chose à nous dire et il nous fait toujours autant rire, et c'est ça qui est formidable.
C'est ça le génie ?
Ben oui, je crois.
Merci beaucoup, Georges Forestier, de nous avoir parlé de la vie de Molière, à qui vous consacrez une magnifique biographie parue chez Gallimard. Ça s'appelle Molière, tout simplement. Encore merci.
C'est moi qui vous remercie.